señora, no sé indiferente.
RFI, grand reportage.
Ces cris d'indignation sont ceux de jeunes péruviennes venues manifester lors de la Journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes le 25 novembre dernier à Lima. En 2020, le Pérou a enregistré plus de 200 000 plaintes pour des violences à la personne, dont 90% concernent des femmes victimes de viols, disparitions et féminicides. Pendant les 3 mois et demi de confinement, ces violences ont été jusqu'à 20 fois plus élevées que les années précédentes. Si les chiffres sont alarmants, la pandémie n'a fait qu'accentuer un phénomène déjà bien ancré dans la société péruvienne, une société traditionnelle encore très machiste et patriarcale. Au Pérou, l'inquiétante explosion des violences envers les femmes pendant la pandémie. C'est un grand reportage de Viloen Munoz-Boileau.
Alors je me trouve au milieu de la place San Martín, la place principale du centre historique de Lima. C'est le point de ralliement habituel des manifestants dans la capitale péruvienne. Ce 25 novembre 2020, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes. Et malgré la pandémie et l'interdiction des rassemblements, des centaines de femmes sont présentes, masquées évidemment. Alors il y a beaucoup de jeunes filles, des étudiantes, des ados, et toutes portent des t-shirts ou des pancartes bardées de slogans tels que « Le machisme tue »,« Fini l'impunité » ou encore « Ensemble contre les violences envers les femmes ».
Sur notre pancarte, il est écrit « Une femme disparaît toutes les 5 heures ». On nous tue et on nous fait disparaître. Pendant la pandémie, les féminicides ont augmenté de 200%. C'est inédit. Il faut mettre un terme à cela. Et maintenant ?
Alors un peu plus loin, il y a une dizaine de mères de famille qui se sont rassemblées devant un parterre de fleurs et de portraits. Ce sont les photos de leurs filles assassinées ces derniers mois par un mari jaloux ou un conjoint violent. Liliana a 40 ans, elle est l'une de ces mères de famille et brandit avec colère la photo de sa fille.
Je suis la maman d'Erika, assassinée le 2 juin en plein confinement par son conjoint. Il l'a violemment frappée contre un téléviseur et rouée de coups. Elle n'a pas survécu. Son meurtrier est en détention provisoire, mais celle-ci est sur le point d'expirer. Il risque donc d'être libéré parce que l'enquête n'avance pas. Tout est ralenti par la pandémie.
La situation au Pérou est alarmante. Selon le défenseur du peuple, on est à 111 féminicides depuis le début de l'année. 125 d'après nous. 125 femmes assassinées pour le simple fait d'être une femme. Je fais partie de l'organisation féministe Manuela Ramos. Et on est là, aujourd'hui, pour dénoncer les violences envers les femmes qui se sont intensifiées et multipliées depuis le début de la pandémie. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est qu'environ 8000 femmes sont portées disparues. Par le passé, les disparues ont fini par être retrouvées mortes, victimes de féminicide. D'autres tombent probablement dans la prostitution et la traite de personnes. Mais où sont-elles ? L'État ne fait rien pour les retrouver. Une autre de nos préoccupations, c'est la violence sexuelle envers les fillettes et les ados qui s'est elle aussi intensifiée pendant la pandémie. L'État s'était engagé à assurer la distribution de kits d'urgence contenant, entre autres, des pilules du lendemain. Mais il ne l'a pas fait. Du coup, énormément de jeunes filles se sont retrouvées enceintes ces derniers mois après avoir été violées.
Sur le terrain, les autorités, elles aussi, ont constaté une augmentation des violences à l'égard des femmes pendant le confinement lié à la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, le téléphone sonne sans arrêt dans l'open space de la ligne 100. Mise en place il y a 20 ans par le ministère de la Femme, cette ligne d'assistance téléphonique dédiée au signalement des violences à la personne a dû être renforcée pendant le confinement national au Pérou entre mars et juillet, car les opérateurs n'arrivaient plus à faire face à l'explosion du nombre d'appels, alors même que le service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce jour-là, une centaine d'opérateurs et opératrices masqués s'activent devant leurs ordinateurs, casques sur les oreilles, pour répondre aux appels qui s'enchaînent. Au bout du fil, des femmes, des ados ou des fillettes qui racontent les violences psychologiques, physiques ou sexuelles qu'elles ont subies. Les opérateurs les écoutent attentivement, puis les orientent vers des spécialistes en fonction de leurs besoins. Dans l'open space, c'est le brouhaha absolu car l'espace n'a pas été conçu pour accueillir autant d'opérateurs. Anna Maria Mendieta est directrice de la ligne 100. Elle nous explique comment le confinement a provoqué une hausse des signalements de violence envers les femmes.
En 2020,
le nombre de plaintes a augmenté de 100% par rapport à l'année précédente. Jusqu'au mois de novembre, on en était à 218 000 appels pour des cas de violence envers les femmes contre 119 000 en 2019. Les victimes se sont retrouvées enfermées chez elles, sans la possibilité de se réfugier chez une amie ou un parent, comme elles le font en temps normal. Et tous les centres d'urgence pour les femmes du pays ont été fermés pendant les 3 mois et demi du confinement total. La police et le ministère public ont également réduit leurs services à la population. La seule option pour les victimes était donc de nous contacter.
Anna Maria et son équipe se sont retrouvées non seulement submergées par les appels, mais ont dû faire face à une proportion inhabituelle de cas nécessitant une prise en charge immédiate.
On a été débordés. Comme les cas nécessitant une prise en charge urgente ont eux aussi augmenté par rapport à d'habitude, on a dû mettre en place une stratégie pour remplacer les 400 centres d'urgence qui reçoivent habituellement les victimes et leur apportent un soutien émotionnel, social et légal. On a notre équipe habituelle de professionnels joignables par téléphone, des psychologues, travailleurs sociaux, des avocats, mais aussi une équipe itinérante. Comme les victimes ne peuvent pas se rendre dans les centres d'accueil d'urgence, on vient à elles pour leur apporter la protection nécessaire et, si besoin, les sortir de chez elles avant de les rediriger vers un refuge.
La ligne 100, non ?
On ne peut pas suivre cette situation, non ?
Parmi les cas dits urgents, il y a de nombreux cas de violences sexuelles, un phénomène en hausse depuis le début de la pandémie. Anna Maria Mendieta est d'autant plus inquiète que dans 70% des cas, les victimes ont entre 0 et 17 ans.
On a reçu au moins 10 000 appels cette année pour des violences sexuelles sur des bébés, des fillettes et des ados. C'est énorme et beaucoup plus que les années précédentes. Le pourcentage d'adolescentes qui tombent enceintes est d'ailleurs monté à 14% dans le pays. Et encore, 14%, c'est la moyenne nationale. Si l'on regarde dans les régions les plus reculées, les plus pauvres, dans les Andes et la jungle, on est même à plutôt 20%. Dans la majorité des cas, ces grossesses sont le résultat d'un viol, car il s'agit de mineurs. Et on sait qu'il y a un nombre important de cas non déclarés. Comme toujours, dans les cas de violence, et en particulier de violence sexuelle, on estime qu'à peine un tiers des victimes dénoncent les faits auprès d'une institution. Elles ont peur, elles ont honte, et dans la plupart des cas, l'agresseur est un proche, donc quelqu'un qui a la confiance de la victime et en abuse, mais aussi souvent quelqu'un qui est protégé par le reste de la famille. Donc c'est plus difficile pour ces fillettes et ces ados de nous appeler quand leur père ou leur mère, par exemple, est à la maison. Or, avec la pandémie, beaucoup de parents ne vont plus au travail et restent chez eux.
Malgré la réouverture de la plupart des centres d'accueil d'urgence début août, la ligne 100 a maintenu ses équipes itinérantes sur le terrain pour faire face à la demande. Cette dernière est en légère baisse ces dernières semaines, mais toujours largement supérieure à la moyenne des dernières années. Et la nouvelle vague de contamination au coronavirus qui touche actuellement le Pérou fait craindre à Anna Maria Mendieta un nouveau confinement et avec lui une nouvelle explosion des violences. Si la situation est alarmante, elle est malheureusement pas nouvelle au Pérou, où les violences envers les femmes sont depuis longtemps un problème endémique que la pandémie et les mesures de confinement n'ont fait qu'exacerber. Pourquoi le Pérou est-il particulièrement touché par ce fléau? Quelles en sont les causes? L'affaire Sol Siret est un cas emblématique qui permet d'y voir un peu plus clair sur le traitement des violences envers les femmes au Pérou.
Hola, buenas tardes.
Pour en parler, j'ai rendez-vous avec les parents de Sol Siret à Callao, petite ville de la banlieue nord de Lima. La mère de Sol Siret m'attend devant le pavillon familial situé en bordure de route entre deux garages. Elle porte un t-shirt violet avec la photo de sa fille imprimée en grand.
Je m'appelle Rosario Aivar, je suis la maman de Sol Siret Rodriguez. Elle était étudiante en dernière année de sociologie, mais aussi activiste féministe et mère de deux enfants.
Vous pouvez me raconter le jour où vous avez appris la disparition de votre fille ?
De agosto. El 21 de agosto del 2016, domingo.
Le 23 août 2016, son compagnon Brian m'appelle pour me dire que ma fille est partie. Je lui demande « Comment ça, elle est partie ? Ou pourquoi ?» Il me répond simplement qu'elle a laissé toutes ses affaires et qu'elle est partie. Et il raccroche. Le lendemain, il est allé au commissariat pour déclarer qu'elle avait abandonné le domicile conjugal. De notre côté, après avoir attendu les 72 heures réglementaires, mon mari et moi, nous nous sommes rendus au commissariat pour signaler sa disparition. Mais l'agent a refusé de le faire. Parce que d'après son expérience, les jeunes filles font ce genre de choses. Quitter le foyer conjugal du jour au lendemain parce qu'elles ont envie de liberté. Qu'elle devait être en train de s'amuser avec ses amis et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter.
Et que les chicas jóvenes se iban porque querían estar libres, ¿no?
Une semaine après cet épisode et toujours sans nouvelles de leur fille, Rosario Aybar et son mari parviennent enfin à signaler la disparition de Sol Siret. Mais les autorités ne bougent pas pour autant, aucune enquête n'est menée pour retrouver la jeune étudiante et mère de famille. 4 ans s'écoulent ainsi, laissant la famille et les proches dans l'angoisse et l'incertitude. Devant nous, Rosario Aybar fait défiler les dizaines de lettres et les mails envoyés aux autorités pour demander des comptes sur l'avancée de l'affaire. La plupart sont restés sans réponse.
C'est nous, sa famille, ses amis, ses collègues, qui avons mené l'enquête tout seul, par nos propres moyens, parce qu'on savait que Sol Siret n'avait pas pu partir comme ça, sans ses enfants.
Ce n'est qu'en février dernier, alors qu'un nouveau procureur prend l'affaire en main, que les premières arrestations en relation avec la disparition de Sol Siret ont lieu. Peu de temps après, son corps est retrouvé dans la maison où elle vivait avec son compagnon. Ce dernier fait désormais l'objet d'une enquête pour meurtre, alors que plusieurs années se sont écoulées sans que la police ne les convoque pour témoigner ou que leur domicile ne soit perquisitionné. Depuis, l'indignation a éclaté sur les réseaux sociaux péruviens. Pourquoi a-t-il fallu presque 4 ans aux autorités pour débuter une enquête afin de rendre justice à la famille de Sol Siret? Et combien de temps encore pour que l'enquête soit menée à terme et le ou les auteurs jugés? Les parents de Sol Siret dénoncent l'indifférence et la négligence des autorités et de la justice péruvienne.
L'État n'a pas fait son travail. La police, les procureurs, les avocats, tous ont déclaré, sans preuve, que notre fille était partie de son propre chef, pour un autre ou parce qu'elle en avait assez d'élever ses enfants. Et c'est la réponse qu'on donne à toutes les mères et familles de disparus. Les autorités n'acceptent pas les plaintes pour disparition, car selon elles, ce n'est qu'un problème domestique.
Au-delà du manque de formation des agents de la police et des opérateurs de justice, les parents de Sol Siret mettent en cause l'absence d'outils efficaces pour la recherche des disparus. Le Pérou vient d'ailleurs seulement de se doter d'un fichier national réclamé depuis plus de 10 ans pour centraliser les cas de disparition. Un retard qui s'ajoute aux nombreux manquements des autorités en la matière. Simple manquement de la part des autorités, non, violence institutionnelle, répondent des activistes féministes qui dénoncent régulièrement la violence exercée par la justice péruvienne et plus généralement par l'État sur les femmes pourtant déjà victimes de violences. Alors pour parler de cette violence institutionnelle, j'ai contacté Eva Machado qui, Covid oblige, m'a donné rendez-vous dans un parc près de chez elle à Surco, un quartier résidentiel de Lima, où je me rends en taxi.
Hola.
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Bueno, soy Eva Machado.
Je m'appelle Eva Machado. Je suis activiste féministe, membre du collectif féministe antipatriarcal.
Antipatriarcal.
En novembre dernier, Eva et son collectif ont réalisé une action choc devant le palais de justice de Lima. Pour en parler, elle me montre sur son téléphone portable des photos qu'elle a prises ce jour-là.
Sur ces photos, on nous voit avec des pancartes où il est écrit « Mes sous-vêtements ne justifient pas qu'on me viole ». Ce jour-là, on portait toutes une culotte en dentelle rouge. C'était une manière d'exprimer notre indignation parce qu'un tribunal avait décidé d'acquitter un homme accusé de viol sous prétexte que la victime portait une culotte en dentelle rouge. Ce qui s'est passé, c'est que la jeune femme a perdu connaissance après avoir bu en présence de ce jeune homme qui l'a ensuite violée. Elle l'a dénoncée, mais selon les magistrats, elle n'a pas pu être violée car les sous-vêtements qu'elle portait montrent qu'elle avait l'intention d'avoir des relations sexuelles, alors qu'en réalité, elle était inconsciente au moment des faits. Les magistrats qui ont traité l'affaire, deux femmes et un homme, ont utilisé des arguments complètement misogynes et absurdes. Ils ont revictimisé la jeune femme en lui reprochant une tenue inappropriée, immorale et soi-disant faite pour séduire. Ils ont complètement décrédibilisé son témoignage. mariage. Donc, ils ont justifié le viol au bénéfice de l'agresseur.
Ce n'est pas un cas isolé. On retrouve ce genre d'argument dans d'autres affaires de violence envers des femmes au Pérou. En septembre, par exemple, un procureur de Lima a abandonné les charges contre un directeur de théâtre accusé d'abus sexuels par une quinzaine d'élèves sous prétexte que les victimes n'étaient pas suffisamment traumatisées. Autre cas, un mois plus tard, après le viol en réunion d'une jeune fille par cinq de ses amis, l'avocat de l'un des accusés a déclaré que la victime aimait la vie sociale, sous-entendu, elle était consentante. C'est ce traitement des violences envers les femmes qui a poussé les activistes féministes comme Eva Machado à multiplier les actions pour dénoncer ce qu'elle qualifie de violence institutionnelle, soit une violence qui émane de l'État en général.
Ce sont les policiers qui n'acceptent pas les plaintes des femmes, les procureurs qui n'enquêtent que partiellement, les juges qui refusent de prononcer des sanctions exemplaires à l'encontre des agresseurs et qui préfèrent leur infliger la peine minimale, voire les acquitter. L'État et les autorités revictimisent constamment et sont inefficients. Ça aussi, c'est une forme de violence.
Cette violence institutionnelle qui s'ajoute à la violence psychologique, physique et sexuelle dont sont déjà victimes les femmes au Pérou est symptomatique d'une société où la violence envers les femmes est normalisée. Ce constat, c'est celui de Wilson Hernandez, chercheur à l'université de Lima, spécialisé dans les violences de genre.
Allô ?
Hola. Buenos días. ¿Me escucha bien?
Sí, perfecto.
Depuis chez lui, perfecto. Où il est confiné, okay. Il nous explique okay. Comment cette violence de genre s'est normalisée au Pérou.
C'est lié à la manière dont les femmes et surtout les hommes se socialisent au Pérou, comment on apprend à se comporter en tant qu'homme, nos attentes par rapport aux femmes. Dans l'imaginaire populaire péruvien, une femme doit remplir certains critères. Être obéissante, délicate, on imagine qu'elle a besoin d'un homme protecteur, donc plus l'homme est rude et mieux c'est. À cela s'ajoute une logique de contrôle, car à nous les hommes, on nous a enseigné qu'on doit avoir le contrôle de ce qui nous appartient. Et dans la logique machiste, la femme nous appartient presque comme un objet, ce qui justifie des actes violents. Cette vision, nous, les Péruviens, l'avons tous intériorisée. Aussi bien les femmes qui assimilent dès le plus jeune âge des attitudes pour se protéger que les hommes pour qui le harcèlement et la violence font partie de leur rôle. Même les hommes qui ne sont pas des agresseurs approuvent ces violences. Mais les activistes féministes gagnent du terrain au Pérou, notamment sur les réseaux sociaux où on observe une plus grande prédisposition à parler de mécanismes de lutte contre les comportements machistes, ce qu'on ne voyait pas il y a encore 5 ans. Donc ça, c'est positif.
Et justement, l'automne dernier, le hashtag Pérou País de Violadores, Pérou pays de violeurs, est devenu viral sur Twitter après qu'un jeune homme accusé de viol ait été acquitté par la justice péruvienne. Comme lors de la vague MeToo en Europe ou aux États-Unis, des milliers de Péruviennes, victimes elles aussi de viol, sont alors sorties du silence pour la première fois et ont raconté leur histoire sur le réseau social. Une libération massive de la parole qui constitue une étape cruciale dans la lutte contre les violences envers les femmes au Pérou. Retour dans la manifestation du 25 novembre dernier à Lima.
On est conscient du problème et du fait que tout le monde doit se mobiliser. Comme vous le voyez, la majorité des gens ici sont des jeunes comme moi. Les adultes ont une autre mentalité. Ils n'ont pas l'habitude de ce genre de revendications. Mais il y a ici des femmes plus âgées qui ont été victimes de violences par le passé et qui n'ont pas osé les dénoncer à l'époque. Aujourd'hui, malgré la pandémie, elles manifestent à nos côtés. Les choses ne peuvent pas changer radicalement du jour au lendemain. Mais on a bon espoir de voir la situation s'améliorer d'ici le bicentenaire de l'indépendance du Pérou, qui sera célébré en juillet prochain. L'espoir, c'est la jeune génération, qui semble avoir compris que ces violences, ce n'est pas seulement le problème de quelques individus isolés et des activistes.
Malgré la pandémie et l'explosion des violences qui l'accompagnent, les Péruviens, et notamment les plus jeunes, semblent conscients de la nécessité d'agir pour changer les comportements et les mentalités.
Au Pérou, l'inquiétante explosion des violences envers les femmes pendant la pandémie, un grand reportage de Villoen Munoz-Boileau, réalisation Eva Piedel.